Bonjour, sur France Culture en ce dimanche matin 8h30, Jean-Luc Gadreau avec vous pour Solae, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. Fin janvier se déroulait le traditionnel festival de la BD d'Angoulême avec en son sein les remises des prix de la BD chrétienne et celle du jury œcuménique de la BD. Alors rappelons-les, le prix du jury œcuménique à Song de Ai Han et Pauline Guiton chez Ankama Édition. Une mention spéciale également pour l'album Les oiseaux de papier de Mana Nayestani chez Ça et là. Et puis pour le prix de la BD chrétienne, il a été attribué cette année à Séraphine de Edith, sortie chez Rue de Sèvres, avec une mention spéciale pour Padre Sicario, une BD de Thomas Dandois et Vladimiro Merino chez Albin Michel. Dans le prolongement de ces annonces, eh bien j'ai le plaisir de recevoir ce matin dans Soleil le rendez-vous protestant un artiste, un auteur suisse de bandes dessinées chrétiennes, mais pas que, de livres, de films d'animation, de spectacles musicaux. Il s'agit d'Alain Audercé. Bonjour Alain.
Bonjour.
Bienvenue dans Soleil.
Merci.
Depuis 2001, avec la BD Idées reçues, un livre donc, une bande dessinée qui sera traduite en 6 langues, eh bien vous n'arrêtez pas. Marcel, Roby, Willy Grunch, Les souvenirs d'Asvaltia et toute la magnifique série Rendez-vous dans la forêt. La BD, même si vous faites pas mal d'autres choses, c'est le cœur de votre travail. Pourquoi avoir choisi la bande dessinée, Alain ?
Donc, moi, mon vrai moteur, c'est pas de faire de la BD ou de faire des livres, c'est de... J'aime Dieu, vraiment, ouais. Tu sais. J'ai envie de le partager et je veux connecter les gens. Mais et du coup, je me suis dit, ben voilà, moi j'aime lire des BD. Donc je vais les connecter avec ce que j'aime et du coup avec un truc fun quoi, parce que c'est super, tu peux faire tellement de choses en BD, tu peux imaginer des décors de fou quoi, tu peux tout dire, tu vois, c'est extraordinaire.
C'est le cinéma au bout d'un crayon en fait.
Voilà, avec pas les effets que tu dois payer à des millions de francs, mais ouais. Voilà, tu les fais, voilà, ça sort
du cœur, imagines.
Il n'y a pas de limite, quoi. Ouais. C'est, même le papier, tu n'as qu'à en rajouter si tu n'as plus de place.
Et alors Alain, vous n'étiez pas spécialement dessinateur alors à la base ?
Ben, j'ai...
Un bon coup de crayon, c'est tout ?
Ben, en fait, j'ai fait mes armes pendant les cours de maths où je m'ennuyais à mourir. Il fallait bien que le temps passe et puis voilà, puis c'était un rêve dans mon cœur, mais j'avais pas forcément quelque chose à dire, tu vois.
Oui.
Mais le déclic, c'est ma rencontre avec Dieu. Et c'est comme si cette rencontre avec le Créateur avait réveillé tout ce qui était créatif en moi. Et donc, du coup, tout s'est réveillé d'un coup et tout un nouveau monde s'est ouvert à moi. Ben voilà, c'est ce que je vais faire, quoi.
C'est arrivé à quel âge, là ?
15 ans. Ouais. 15 ans, je suis tombé sur le journal Tournesol, pour pas le nommer.
Un petit journal dans lequel il y avait de la bande dessinée, d'ailleurs.
Voilà, c'est uniquement pour ça que ouais. Je l'ai lu, parce que je l'ai trouvé dans les poubelles, tu vois.
On en a déjà parlé dans l'émission, bien sûr.
Ah ouais, trop bien. Ben, du coup, voilà. Puis, en fait, la particularité de ce journal, c'est de partager Dieu, mais aussi des témoignages en bande dessinée, tu vois, des trucs, et puis de vécu. Et je me suis dit, what ? Quoi, on peut parler avec le Créateur, mais on m'a pas dit ça. On m'a pas dit. Puis du coup, bah, j'ai fermé la porte de ma chambre, puis j'ai essayé.
Eh ouais, d'accord.
Et puis
tout simplement.
J'ai rien ressenti, rien vu. Je me suis dit, ouais,
c'est des bobards.
Bah, la connerie en boîte, tu vois. Puis après, quand même, ça m'a intrigué. Je me suis peut-être pas pris de la bonne manière. Faut que je réessaye. Peut-être que Dieu n'entend que ce qui est sincère, tu vois. J'étais peut-être pas assez sincère. Et donc, du coup, moi, je savais pas. J'ai essayé. Et puis, j'ai commencé à lire la Bible aussi. Je savais même pas si ça existait encore, ce bouquin, tu vois.
Et oui.
On en parle pas à l'école.
Vous aviez pas de culture du tout chrétienne.
Ben oui, on a fait le caté, ces trucs machin,
ben non,
mais on n'a rien écouté.
Ouais.
On se lançait des bouts de papier, mais ça avait l'air chiant, tu vois. Alors du coup, on n'écoutait pas, tu vois. Mais là, j'avais envie de vivre une relation avec Dieu, tu vois. Alors si c'était possible. Et donc du coup, à force d'interroger, ben petit à petit, s'est passé quelque chose. J'ai senti vraiment une présence.
Ouais.
Et pour moi, c'était le début d'une aventure de fou.
Là, j'aimerais bien qu'on vienne sur votre actualité. Donc, on l'a entendu, il y a eu pas mal de BD qui ont eu un certain succès. Aujourd'hui, c'est un livre, un bel album avec une histoire et des dessins quand même qui l'illustrent. C'est aussi un spectacle musical qui l'accompagne sur scène. Et tout ça, ça s'appelle La Légende de Mi. Alors je vous propose peut-être que vous nous expliquiez de quoi il s'agit, de quoi ça parle cette Légende de Mi.
Cette Légende de Mi commence par la réalité, c'est-à-dire que j'étais démoralisé, je ne savais plus de force, je ne comprenais pas pourquoi de malheur arrivait dans ma vie et tout ça. Et comme à mon habitude, j'allais en forêt et je vais chercher un recours, un secours, une aide auprès de Dieu, mais pas auprès d'une croyance, auprès de Dieu lui-même. Et cette histoire, elle s'est littéralement téléchargée dans ma tête. J'ai pas eu à faire d'effort intellectuel, elle est venue comme ça, elle s'est présentée à moi. Et j'étais bouleversé en découvrant la fin, et ça me parlait aussi par rapport aux questions que j'avais. Ça m'a consolé, ça m'a fait du bien. Et du coup, ben là, je résume. Mais
oui, sans tout dévoiler, peut-être juste quelques aspects de l'histoire.
C'était il y a 10 ans, c'est devenu un spectacle. Et puis après, ben là, j'ai senti, c'est le moment d'écrire. Parce que quand j'ai eu plus de 40 ans, je me suis découvert un plaisir d'écrire, toi. Vraiment, mais une délectation d'écrire, de chercher les mots, de bouger, de chercher l'excellence en jouant avec les mots et tout ça. Et
alors ça, c'est un aspect que je souligne, je vous interromps, mais vous êtes à la fois extrêmement naturel dans la relation et en même temps vous aimez parler d'excellence parce que je crois que par rapport au travail artistique vous considérez que c'est pas parce qu'on est croyant qu'on doit faire n'importe quoi et donc vous avez envie vraiment au contraire de chercher l'excellence dans le travail artistique que vous faites.
Parce que oui, c'est aussi ce que je cherche dans mes lectures, dans les films que je regarde, j'ai envie de regarder des trucs qui me bouleverse. J'ai envie de voir des choses où je me dis waouh, le niveau du dessin, j'ai envie de m'éclater, tu vois. Et j'ai envie de donner ça aux gens à travers mes histoires. Alors la légende de Mi, par exemple, elle en fait dans l'histoire on nomme jamais Dieu, on parle d'un roi, on parle d'un esclave, on parle d'un peuple, tout ça, mais du coup il est tellement présent. Mais il est tellement présent dans cette histoire écrite, dans l'histoire jouée, et quand on finit le spectacle, ben les gens, il y a des gens en larmes dans la salle, tu vois.
Justement, à propos des réactions, il y a une petite vidéo de présentation sur Internet, et elle termine avec une petite fille qui dit « J'ai adoré l'histoire, elle était bien, et voilà ».
Ouais, c'est chou. En fait, moi je l'ai écrit pour mon public habituel, c'est ado, jeune adulte. Je dis, c'est ouvert aux enfants depuis l'âge de 10 ans. Et donc, je vois qu'ils arrivent à suivre.
Hein. Et des gens plus vieux n'ont pas de soucis du tout non plus, d'ailleurs, je crois.
Une fois, on a fait un spectacle, c'était tous des personnes du troisième âge. C'était fort, parce que ces gens-là ont vécu des choses dans leur vie, des choses qu'ils n'ont pas compris, tu vois. Pourquoi j'ai dû vivre ça? Et puis là, j'ai senti que c'était des pièces qui tombaient, tu sais, j'avais pas vu
des
ça
réponses,
comme ça, ouais. Tac, tac. Et en fait, j'ai l'impression, à ce moment-là, d'être spectateur. J'ai joué, j'ai pris ma guitare, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais là, tout à coup, je vois dans le public, je crois que c'est Dieu qui passe dans le public, quoi. Il y a des gens qui me racontent des choses, c'est plus moi. Moi, je peux pas faire ce qu'ils vivent. C'est des gens qui ont eu des rencontres personnelles avec Dieu en ayant entendu ce que j'ai dit.
Alors l'album, c'est une histoire, des dessins. Sur scène, vous avez quelqu'un avec vous?
Ouais, Priscille de Prince.
Priscille de Prince qui dessine sur un, c'est projeté sur un écran derrière vous. Et puis vous êtes devant avec la guitare. Ouais. Vous jouez, vous racontez l'histoire, vous parlez. C'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est plus que ça en fait, parce que Priscille, elle est arrivée à l'atelier comme ça, tu vois. C'est une jeune fille qui plein de rêves et puis qui voulait servir Dieu et puis du coup elle a vu qu'on pouvait faire ce que je faisais et elle a appris et là disons en passé et c'est une vraie machine, elle a vraiment cherché l'excellence aussi parce que c'est aussi ça que j'enseigne moi. Et puis donc elle a été plus loin que moi, elle m'a dépassé au niveau de ce qu'elle fait.
Au niveau technique, coloriste.
C'est vraiment spécialisation, couleur. Mmh. Et puis donc, avec le spectacle, il y a vraiment une performance de vitesse. C'est-à-dire, au moment que je parle, ça apparaît à l'écran. Tu vois.
Ouais.
Et donc ça, c'est un aspect qui impressionne beaucoup le public. Parce que, enfin, moi, je ne l'ai pas vu souvent. Ça.
Mmh. Alors... Le grand thème de la légende de Mie, vous l'avez très légèrement évoqué avec ces personnes du troisième âge qui étaient confrontées à cette histoire et qui trouvaient peut-être des réponses. C'est la souffrance.
Oui.
La souffrance, un mal universel finalement. Comme dit le livre de l'Ecclésiaste, je pense à ce verset dans le chapitre 11. Si donc un homme vit longtemps, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, tout en se souvenant des jours sombres, car ils seront nombreux. On est tous confrontés à la souffrance, qu'on le veuille ou pas. Il n'y a pas, il y a pas de personnes qui sont mises à l'abri. Et la souffrance, c'est un mal universel, finalement.
En fait, je ne fais pas l'éloge de la souffrance dans ce livre. Par contre, je donne une réponse à cette question. Mais si Dieu est si bienveillant, si bon et si puissant, pourquoi tant de misère dans notre monde ? Et la légende de Mie est une réponse.
Mmh.
Ce n'est pas la réponse, parce que
bien
je
sûr.
Pense que ça nous dépasserait la réponse.
Forcément.
Mais par contre, une réponse et un angle de vue qu'on n'y a pas pensé. On n'avait pas vu la chose de ce côté-là.
Mmh.
Et en fait, où on se rend compte que Dieu, plutôt que de vouloir te faire passer par-dessus l'épreuve, la traverse avec toi. Et qu'il y a une richesse dans cette épreuve, et que le but c'est pas la souffrance, le but est plus grand, tu bâtis quelque chose, enfin c'est difficile d'en parler sans spoiler hein.
Alors le mieux c'est d'aller découvrir cet album, on peut se le procurer très facilement, en tout cas aussi sur le site internet d'Alain Audercé, tout simplement, on tape ça dans un moteur de recherche
shop.audercé.com. Il y a deux versions du livre, ça on s'est fait plaisir.
Ah oui.
Alors, il y a la version classique qui est ciselée, qui est vraiment... Je me suis fait aider par un écrivain qui s'appelle Jacques Oulodili. J'ai vraiment senti que c'était lui que je devais appeler. Il a déjà écrit plusieurs livres. J'ai dit, voilà, Jacques, j'ai écrit ce que je pouvais faire de mieux. Viens maintenant, sois honnête. Casse, qu'est-ce qui est... Dis-moi la vérité.
Qu'est-ce qu'il faut reprendre.
C'était très dur.
Ouais.
Parce qu'il a joué le jeu, c'est très dur, mais c'est ce que va penser de toute façon le public si tu fais...
Bien sûr.
En n'achetant pas le livre, parce qu'il a dit oui, bon...
Ouais, c'est léger, c'est
mais
gentil.
Là, on a un truc vraiment bien foutu. Tout. Puis il y a aussi Bénédicte Lapierre, une jeune fille que j'ai engagée, qui a une plume extraordinaire. Puis j'ai dit, mais vraiment, les deux là, ils ont été avec moi pour vraiment, aussi au niveau scénaristique, au niveau logique, au niveau de tout. Est-ce qu'il y a des zones d'ennui? Ça, les zones d'ennui, j'en veux pas. Je veux que ce soit parfait, mais je sais que ça ne le sera pas. Mais voilà. Et donc, on a écrit ça, corrigé ça. Et
il y a une deuxième version, vous dites ?
Alors, il y a une deuxième version où il y a les scènes coupées.
Ah, d'accord.
Alors, c'est un bouquin...
Comme dans les DVD d'avant.
Oui, voilà. Sauf que on a réfléchi comment on va faire ça. Et c'est ma fille qui est la graphiste aussi animée et qui m'a dit, mais on va mettre en niveau de gris les scènes coupées.
D'accord.
Et qui sont des descriptions qui sont pas forcément nécessaires, mais qui sont... Moi, je trouve quand même ça amène un plus, tu vois. Ça amène un plus. Ah ouais, c'est comme ça en réalité. On pouvait s'en passer, mais c'était le plaisir de rajouter ça. Tu vois.
Celui qui est curieux peut donc en avoir pour son argent.
Ben, ouais, c'est...
Et c'est pas trop cher en plus.
Ben, c'est un gros bouquin, c'est-à-dire il est gros aussi parce qu'on a mis tout l'artbook dedans. Ça veut dire que au lieu de mettre 50 dessins dans le standard, ben on en a mis 350.
Ah oui, d'accord.
C'est 10 ans qu'on travaille là-dessus, qu'on a à cœur, qu'on réfléchit, que tout ça. Pendant une année, on a bossé à fond. Mais
c'est
10
un vieux
ans
projet que vous portez
que ça germe, tu vois.
Le fait de mettre en scène cette histoire, c'est aussi le besoin d'aller à la rencontre des gens. Je crois que c'est très important pour vous. Même si vous êtes un grand solitaire, on va en parler après, vous aimez rencontrer les gens, je crois. Vous me racontiez juste avant l'émission que à Paris, vous étiez dans le métro et vous êtes mis à parler avec des gens. Voilà, la rencontre.
Ah ouais, c'est métro,
capital.
C'est le bonheur pour moi. Je rentre là-dedans et je vois tellement d'univers, tu sais, des gens qui ont tous leur vie, leur. Des fois, tellement opposés les uns aux autres et moi je les regarde et je leur parle et ils sentent bien que je suis bienveillant et je me rends compte que les gens parlent aussi, tu vois. On m'a dit tu verras les Parisiens, mais pas du tout. moi je les aime, ces Parisiens, ils sont incroyables. Ils sont de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de tout plein de monde et tout. Et oh mais
et ça passe. Et donc vous aimez rencontrer les gens.
Ouais, ouais.
C'est ce que vous faites donc dans ce spectacle aussi finalement.
Oui, oui. Alors en plus je pense que c'est un besoin, tu vois, de prendre cette guitare, quoi. C'est
alors je vous arrête.
Ouais.
Parce que justement on a un truc à écouter.
Ah bon?
Je voulais vous faire découvrir, c'est la surprise. D'accord. On ouvre nos oreilles et on écoute.
Ouais, en fait, le problème, je vais vous aider un peu, c'est qu'il y a des gens qui ont des grands noms et ils bâtissent tout petit. Parce qu'ils ont ils se voient pas tels qu'ils sont, ils se voient trop petits. Et puis, ben, ils sont un peu à l'étroit dans leur vie, alors qu'elles pourraient être plus grandes. Et à l'inverse aussi, des petits noms qui en font des tonnes et finalement, sous la pression qu'ils se mettent, ben, leur maison s'écroule.
Salut, et je suis en train de vous parler depuis une voiture, c'est quand même dingue, je suis en train de rouler, on revient d'Alsace, on a vu plein de paysages, plein d'endroits, on arrive en Suisse là, et il y a une réflexion que j'ai, et puis que vous allez trouver tellement bête peut-être, parce que c'est tellement simple et tellement évident, mais que je vois, le soleil est partout, et c'est dingue, parce qu'il y a assez de soleil pour tout le monde, et je me dis, comment ça se fait que des fois, on pense qu'on est obligé de vivre dans un endroit où il n'y en a pas. Comment ça se fait que dans sa tête, on peut n'avoir qu'un chemin et qu'en réalité, le monde est beaucoup plus vaste. L'univers pensé par Dieu est beaucoup plus vaste qu'il n'y a qu'une façon de faire. Il y en a tellement. Et tu roules et tu trouves du soleil. Il y en a assez pour tout le monde. Et ce que je dis, ce n'est pas juste la question du soleil, vous avez compris. Je parle de la question du bonheur. Il est accessible. Dieu a prévu qu'il y ait du bonheur pour toi. Même si toi, tu te dis, ah, mais moi, ma vie, elle est coincée, elle est tout ça. Dis-toi que tu t'es pris dans une prison dans ta tête et parce qu'en fait, ta vie, elle est pas coincée. Il y a de l'espace de ouf. Il y a des espaces de bonheur que tu peux encore vivre.
Alors ça commence ici sur scène dans un spectacle et puis on vous entend dans votre voiture pour une courte vidéo sur les réseaux sociaux et à la fin tout seul là avec votre guitare au bord de l'eau à jouer tout simplement ou à reprendre un chant de louange à Dieu sans fioriture en mode ultra authentique parce qu'il y a les autres, le besoin de rencontrer, ok, mais aussi il y a l'intime qui compte pour vous et c'est aussi quelque chose qui vous caractérise. Pour ceux qui connaissent votre travail, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a les rendez-vous dans la forêt, toute une série d'albums de bande dessinée qui livrent un aspect de votre personnalité. Et puis, il y a aussi ce texte biblique, le chapitre 15 de l'évangile de Jean, et ce verset 15 en particulier. C'est notre rendez-vous à nous, pas dans la forêt, mais à la radio, sur France Culture, avec la parole. Et c'est un autre artiste qui nous le lit, c'est vous qui avez choisi le texte, et celui qui le lit, c'est Mick.
Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père.
Ami de Jésus, Alain Audercé, c'est un qualificatif qui vous convient, il me semble.
Ça m'a fait drôle d'entendre Mick, ça fait plaisir. en toute modestie, hein. C'est pas un titre, c'est tout, c'est...
Mais le fait que Jésus nous appelle ses amis,
ouais.
On l'oublie ça parfois.
C'est vrai. Mais je pense que la grâce qu'il a obtenue pour nous à la croix, tout le monde peut l'obtenir. Tu sais, le sacrifice, le pardon de nos péchés. Mais l'amitié, c'est quelque chose qu'on doit, on doit semer, germer, pousser. On doit...
L'amitié, ça s'entretient.
Ça s'entretient. Tu ne peux pas être pote avec quelqu'un et puis pas t'intéresser... à ce qu'il ressent, à ce qu'il vit, ça va plus loin.
Il y a la relation qui...
Il faut prendre du temps,
ouais.
Voilà. Du temps, et prendre du temps, ça ne veut pas dire finir ermite ou je ne sais pas quoi, ça veut dire simplement, ben, j'ai rendez-vous avec Jésus, aujourd'hui on va parler.
Alors ça peut être dans la forêt pour vous, ça arrive souvent dans la forêt.
C'est calme. Il y a des parcs ici à Paris, il y a des rues, tu peux marcher. Aujourd'hui, les gens parlent tout seuls parce qu'ils ont un casque dans l'oreille qui se voit même pas, donc tu peux faire ça. Et tu vois, tu peux ouvrir ton cœur. Et ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas remarqué tout de suite, mais tu peux aussi écouter. Et c'est assez étonnant. Si tu prends le temps d'écouter, tu entends.
Et on écoute quoi ?
Alors souvent, les gens attendent une grosse voix avec des lumières puis des spots, mais c'est mal connaître l'interlocuteur, parce que si tu regardes comment est Jésus, il n'est pas venu avec une couronne et puis une trompette, il est venu proche des gens.
En discrétion.
Voilà. Donc Dieu est, bien que l'être le plus, peut-être déjà, le seul être vraiment, qui est vraiment lui, la personne la plus incroyable, qui remplit tout, mais qui sait être discret au point que tu peux passer une vie sans le voir. Donc c'est quelqu'un qui use de discrétion et de subtilité pour te rejoindre.
Alors très concrètement, on arrive bientôt à la fin, on s'y prend comment pour écouter Jésus ? Pour vous, ça se passe comment ?
Ben, par exemple, dans la forêt, ce que j'aime bien faire, et c'est pas toujours évident, c'est se taire. Ouais. T'es là, et puis, quand tu sais que t'es avec Dieu, et puis tu laisses se taire tes pensées, tu laisses se taire tout ce qui tourne, tous tes besoins, tous tes trucs, puis t'es là avec Dieu, puis tout à coup, il y a une pensée et qui ressemble aux tiennes, tu vois. Et puis, et parce que lui, il va pas avoir un ton différent. Mais tu sens, à force de tu la reconnais au bout d'un instant. Au bout d'un moment, tu reconnais, ah, ça, c'est lui. Et là, il te dit des choses que tu ne savais pas. Et t'es là, et en fait, c'est dans les pensées, mais c'est aussi dans plein de signes autour de toi. C'est une question d'équilibre, parce que tu peux aussi devenir fou.
Oui, j'imagine que pour certains, ça peut ressembler aussi à ça. Mais c'est peut-être une façon de se rendre disponible au monde autour de nous, finalement.
Eh ben, ça, c'est un des effets que j'ai remarqué. C'est que quand tu commences à essayer d'entendre Dieu, après, ben, tu sors de la forêt, tu vas faire tes achats, tes courses, tout ça, tu rencontres des gens, et tout à coup, tu entends des choses que les gens te disent pas, mais qui sont de eux. Et j'ai remarqué que les gens remarquent que tu entends, il y a tout de suite une émotion forte, tu vois.
Ouais.
Une fois, j'ai sorti, j'étais dans un supermarché, et puis la fille, elle plaisantait, elle disait « Ah ouais, et de toute façon, tous les hommes que j'ai eus m'ont quitté, ha 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 », puis c'était dans la vanne. Et puis là, le Seigneur me dit « Tu as entendu ?» Puis j'ai dit « Oui ». Et j'ai dit à cette femme, alors qu'elle continuait de parler, j'ai dit, qu'est-ce que t'as dit ? Elle a vu que j'avais entendu le petit truc qu'elle a laissé. Elle a fondu en larmes.
Ce qu'il y avait derrière les mots, en fait.
Parce que, tout à coup, parce que tu écoutes Dieu, tu entends les autres aussi.
Merci beaucoup Alain Audercé, merci d'être venu pour cette rencontre ce matin sur France Culture depuis la Suisse. Et donc, pour vous découvrir un peu plus, la recommandation c'est de lire ce livre, La Légende de Mie, un conte profond, sensible et inspiré qui est destiné donc autant aux adultes qu'aux enfants. Et comme vous le dites, à partir d'une dizaine d'années à peu près, ça fonctionne très très bien. Au revoir Alain.
Au revoir.
Deuxième dimanche du mois, c'est donc le moment de retrouver la chronique des Amitiés Huguenotes Internationales. Bonjour Édouard Vandeventer, et c'est vous qui nous livrez ce matin une chronique écrite par Christiane Guttinger à propos de Benjamin Delessert, une personnalité éclairée qui a marqué la botanique, l'industrie et la politique sociale des débuts du 19e siècle.
Oui, bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Et cela à l'occasion des 250 ans de la naissance de Benjamin Delessert, à Lyon en 1773, commémoré à la bibliothèque Mazarine par une exposition dédiée à sa collection botanique. Cette véritable passion était partagée par sa famille, huguenote exilée depuis la Révocation dans le canton de Vaud, active dans la banque et l'industrie à Genève, Lyon et Paris au XVIIIe siècle. La mère de Benjamin est déjà destinataire des lettres sur la botanique de Jean-Jacques Rousseau. Benjamin et son frère aîné Étienne correspondent avec des botanistes et explorateurs du monde entier, enrichissant les herbiers par des échanges et achats dans un but scientifique affirmé. il s'associe avec le jeune voix Augustin Piram de Candolle pour faire paraître 5 luxueux volumes illustrés de planches couleurs très artistiques de Pierre-Jean-François Turpin, constituant de la sorte une véritable bibliothèque spécialisée. En 1795, son père lui confie la direction de ses affaires parisiennes. Benjamin ouvrira le musée botanique de l'Essert, au premier étage de la banque familiale, dans l'hôtel du Zès, 175 rue du Faubourg Montmartre. La botanique est chez lui plus qu'un loisir et sera à l'origine de son immense réussite. Il transforme et industrialise leur propriété de Passy par l'implantation d'une filature de coton, puis d'une raffinerie de sucre, en mettant au point un procédé d'extraction de la betterave, alors que le blocus continental empêche l'approvisionnement en sucre de canne. Cela lui vaudra la reconnaissance de Napoléon, qui le fait en 1812, chevalier de la Légion d'honneur, baron de l'Empire et régent de la Banque de France. Excusez du peu. Une éducation libérale, des voyages de jeunesse en Angleterre l'ont ouvert aux innovations industrielles et l'enseignement d'Adam Smith sensibilisé à la condition ouvrière. Benjamin de Lesserre innove ainsi en la matière de politique sociale et de bienfaisance, créant en 1800 la première soupe fourneau économique à la Rumford pour venir en aide à la population. Il s'investit dans la société d'encouragement à l'industrie moderne, la société philanthropique, les soupes populaires, l'aide à l'instruction primaire, aux salles d'asile destinées à l'enfance, les dispensaires et l'accueil des malades dans les hôpitaux. Membre du consistoire réformé de Paris de 1808 à 1815, il y sera remplacé par son frère François pour se consacrer à la politique, élu député de Paris puis de Saumur. Notons que les premiers cultes du quartier de Passy se tiendront dans l'orangerie de la propriété de Lesserre. Mais c'est surtout la création pérenne en 1818 de la caisse d'épargne et du livret A, destinée à la prévoyance des plus démunis, qui lui vaudra le surnom de « père des ouvriers ». Il dirigera la caisse d'épargne près de 20 ans et lui lèguera à sa mort en 1847 une somme permettant d'offrir des livrets de 50 francs à 3000 ouvriers choisis chaque année. Pour en savoir plus sur les idéaux de ce personnage hors du commun, nous vous conseillons 2 ouvrages, Un guide du bonheur et La nouvelle morale en action.
Merci Edouard, on prend note de ces recommandations de lecture et je rappelle que les Amitiés Huguenotes internationales sont aussi sur internet à l'adresse www.huguenot.fr. C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Delphine Lemaire et avec Bastien Varigaud à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantpluriel.org et à tout moment sur le site de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. À la télévision, ce matin sur France 2, dans Présence protestante, de 10h à 10h30, le magazine Écriture, présenté par Marion Muller-Collard. Aujourd'hui, la vie et la mort avec Camille de Villeneuve, auteur et professeur de philosophie, pour discuter de l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 25. Qui aime sa vie la perd et qui est sa vie en ce monde la conservera pour la vie qui ne meurt pas. Et sur France Culture, à suivre les informations, puis Talmudique avec Marc-Alain Wachnin. Je vous souhaite un très bon dimanche à chacune et chacun. Thank you.